Bonsoir. Alors, le sujet qui nous occupe ce soir, c'est un sujet qui est tombé au bac il y a quelques années. Je me suis dit que j'allais le prendre parce que je plaignais beaucoup les élèves qui étaient tombés là-dessus. C'est la liberté est-elle menacée par l'égalité ? Alors, je ne sais pas si c'est un sujet qui vous parle immédiatement, mais moi, il me semble que le sujet le plus évident, celui qui vient plus, la question, disons, qui vient plus spontanément à l'esprit, c'est l'égalité est-elle menacée par la liberté ? En tout cas, dans un contexte démocratique, on voit bien, sans trop y réfléchir, comment la liberté des uns peut menacer un consensus, un certain consensus, un certain état de droit égalitaire. Mais la question « la liberté est-elle menacée par l'égalité ?», elle est plus subtile. Voilà, donc je vais essayer de cerner un peu le problème dans une introduction. En fait, il me semble que la question, autant la question « l'égalité est-elle menacée par la liberté ?» est d'emblée une question politique. Mais la question « la liberté est-elle menacée par l'égalité ?» me semble partir d'un champ qui est en dehors du politique. Même si on va très vite arriver à la question politique et notamment à la question de la démocratie, puisque je crois que c'est l'enjeu du problème ici. En fait, en tout cas j'aimerais partir de là, il me semble que cette question « la liberté, ma liberté est-elle menacée par l'égalité que j'ai avec les autres ?» il me semble que cette question recouvre une expérience subjective. Et d'ailleurs, c'est indiqué par le terme de menace. Qu'est-ce que c'est qu'une menace ? En fait, c'est d'abord un sentiment, puisqu'une menace, ce n'est pas un danger réel, mais c'est un danger potentiel, imaginé. Donc il faut bien un individu doué d'imagination, doué d'anticipation, doué de sentiments aussi, pour pouvoir appréhender cette menace. Donc, de quelle liberté parle-t-on quand on parle d'une liberté qui pourrait être menacée par l'égalité ? Il me semble qu'on parle d'une liberté qui serait définie ou vécue comme une différence. Être libre, c'est pouvoir se distinguer, c'est pouvoir être différent des autres. C'est surtout pas être commensurable, comparable, identique. Et en ce sens, si on devait donner une image ou prendre une figure pour illustrer une telle liberté, il me semble que ce serait la figure du héros ou du chevalier, ou de l'aristocrate ou du grand seigneur. C'est-à-dire, en fait, cette liberté, elle est proche de la gloire. La gloire des anciens, la gloire de l'idéal chevaleresque du Moyen-Âge, la gloire de l'aristocratie, de l'ancien régime. C'est-à-dire, l'homme vraiment libre, en ce sens-là, c'est l'homme qui se distingue, qui est admiré pour ses hauts faits, qui apparaît. Et cette liberté-là, elle peut aller jusqu'au sacrifice de soi. C'est pas une liberté intéressée. C'est pas une liberté, on dira peut-être plus tard, bourgeoise. C'est une liberté qui, certes, cherche la gloire, mais qui n'est pas une gloire à laquelle on est intéressé, qui est une gloire qui est la marque du sacrifice, la marque de la capacité à embrasser une cause universelle. Donc c'est la gloire ou la liberté du martyr ou du héros qui peut aller jusqu'à donner sa vie. On illustrera ça un peu plus tard dans la première partie, notamment avec la morale de l'homme généreux, qui est une sorte de morale aristocratique telle que Descartes l'a définie. J'y reviendrai. Pour l'instant, j'en reste aux images pour essayer de vous faire sentir un peu de quelle liberté il s'agit, me semble-t-il, lorsqu'on parle d'une liberté qui se sent menacée par l'égalité, l'égalisation, l'harmonie, l'homogénéisation des conditions. Alors, bon, voilà campé ma figure du héros, ma figure de la liberté que je vais appeler liberté aristocratique pour faire rapide, mais vous voyez de quoi il s'agit, ce serait plutôt le chevalier, quoi. Que le petit noble de cour, c'est pas de ça dont il est question. Alors, pour camper un peu le problème, je m'appuie sur une lecture que j'ai faite récemment, qui est la lecture d'un philosophe contemporain qui s'appelle Jean-Claude Michéa, et qui a analysé dans plusieurs ouvrages, notamment la pensée libérale. Il a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « L'Empire du moindre mal », et c'est sur la civilisation libérale où il donne un aperçu relativement critique, voire très critique, de la pensée libérale et du libéralisme politique et économique. Pour lui, ça ne fait qu'un, en fait. C'est une même idéologie. Et donc Michéa, dans « L'Empire du moindre mal », analyse la modernité politique, qui est concomitante pour lui avec le libéralisme, Et il montre qu'en fait, le libéralisme, donc la liberté érigée en théorie politique, développe une toute autre conception de la liberté que celle que je viens de décrire par l'image du héros ou de l'aristocrate qui se distingue par sa gloire, par ses hauts faits. En fait, il affirme que à partir de l'époque moderne, donc on va situer à la Renaissance, en gros, et puis plus précisément dans la théorisation politique au XVIIe et XVIIIe siècle, à partir de l'époque moderne, donc la liberté se définit non pas comme le fait de se distinguer, de se différencier, mais plutôt comme la capacité de vivre en paix, justement de ne pas être menacé. Il montre notamment que, historiquement, cette théorisation politique arrive après les guerres de religion, et que l'expérience de la guerre a profondément frappé les esprits, et notamment les intellectuels. Et donc, on est dans une sorte de plus jamais ça avant l'heure. Et qu'il s'agit donc de fonder et de penser l'organisation politique avant tout comme ayant pour finalité d'assurer la paix civile. Et donc, la conservation de soi devient la liberté fondamentale. Avoir la liberté et le droit de se conserver soi-même, de vivre en paix, sans être menacé, sans être empêché. Donc le principal souci de l'individu, ça n'est plus de briller, de se distinguer, de trouver la gloire jusqu'à pouvoir se sacrifier. Le principal souci de l'individu, c'est la sécurité. Un autre théoricien qui est cité par Michéa, c'est Benjamin Constant, qui a écrit un essai qui est « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes ». On retrouve une idée similaire. On trouve d'abord, auparavant, bien entendu, bien avant Michéa, une idée similaire. Il dit, par exemple, « Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées ». Et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. Alors, la grande théorie de Benjamin Constant, c'est que la liberté des anciens est une liberté publique, la liberté de prendre part aux décisions de la cité. C'est la citoyenneté antique. C'est une liberté donc, qui peut aller jusqu'au sacrifice de soi-même, vous voyez, au don de soi, mais qui est un honneur. Hein. Et la liberté des modernes, c'est simplement... pouvoir jouir de manière privée d'un certain nombre de biens sans être menacé ou empêché. D'accord ? Une liberté strictement privée. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, on voit comment l'égalité n'est plus une menace. Mais l'égalité de droit entre les individus, elle garantit une liberté-sécurité, c'est-à-dire une absence de nuisance. Donc le fameux adage étant que je ne dois pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. On le verra, c'est les fameuses théories du contrat social. Hein, il s'agit d'assurer une égalité entre les individus pour que chacun puisse au minimum jouir de sa liberté privée. Et à ce moment-là, l'idéal aristocratique de gloire, ça c'est Michéa à nouveau qui le note, l'idéal aristocratique de gloire est critiqué. Il y a des critiques très acerbes qui sont faites au XVIIe siècle, notamment en France, avec Port-Royal, Pascal, La Rochefoucauld, qui montrent qu'en fait, ce désir de gloire n'est pas, dans le fond, une capacité à embrasser une cause universelle. Non, ce désir de gloire est ramené à un intérêt égoïste, voyez. Ça va être la critique des moralistes du XVIIe. Donc on va analyser en fait la liberté des grands comme simplement un penchant égoïste pour satisfaire son intérêt ou satisfaire sa vanité. Voilà. Alors, j'ai campé à peu près un contexte historique. Il me semble que l'enjeu est là. C'est-à-dire, quand on pose la question « la liberté est-elle menacée par l'égalité ?», il me semble que le problème, c'est de savoir de quelle liberté on parle. Est-ce que la liberté, c'est un ensemble de droits subjectifs ? D'ailleurs, quand on dit « les libertés », on entend les droits subjectifs attachés à un individu. D'accord ? Donc, est-ce que la liberté, c'est uniquement une liberté privée ou un ensemble de droits subjectifs ? Et dans ces cas-là, on verra qu'il faut une égalité de droit garantie par le pouvoir politique, la souveraineté politique, et que cette égalité protège, assure une sécurité pour les droits de l'individu. Mais si on entend par liberté plutôt l'initiative, la liberté, c'est l'initiative, c'est la capacité d'innover, c'est la capacité de se distinguer, d'exposer sa différence, son talent. Alors, on voit bien comment l'égalité, dans la mesure où elle va avoir tendance à non seulement être dans les droits, mais aussi dans les faits, hein, on va le voir, la démocratie souvent ne se contente pas d'une égalité de droits, mais il faut aussi peut-être une égalité dans les faits. Et là, on voit bien qu'il peut y avoir une tension entre une aspiration à une liberté initiative, une liberté qui est la liberté de se distinguer, la liberté d'être différent, d'être soi, et en même temps, ce que Tocqueville, on le verra, a appelé l'égalisation des conditions. Et donc, ça peut apparaître comme une menace, un empêchement, voyez, à mon droit d'être moi-même et de me distinguer. Voilà, donc je vais travailler cette dialectique, voyez, cette opposition entre la liberté et l'égalité. Et j'essaierai de me demander à la fin, en troisième partie, comment et dans quelle mesure on peut essayer de dépasser l'antagonisme et quelle liberté serait compatible avec l'égalité. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on peut penser une liberté compatible avec l'égalité sans pour autant s'amenuiser, s'amoindrir, voyez ? Est-ce que je peux à la fois être libre, c'est-à-dire me distinguer, être moi, être différent, et en même temps accepter une égalité avec les autres, être à égalité avec les autres. Il me semble que c'est important, parce que ce que je vais essayer de filer tout au long de mon développement, c'est que, dans le fond, l'égalité, ce n'est pas seulement un problème juridique, égalité des droits, égalité éventuellement des richesses, égalité des mérites ou de l'accès enfin égalité des chances, hein, ce qu'on appelle égalité des chances. Ça, c'est un problème juridique ou un problème politique. Il me semble que derrière la notion d'égalité, il y a un problème moral. Quand on réclame l'égalité, on n'attend pas seulement une équivalence de traitement avec les autres, on attend une reconnaissance. Être considéré à l'égal des autres, c'est être reconnu en tant que soi, justement, en tant que personne. Donc, c'est justement être reconnu comme unique et pas égal aux autres. Voilà. Donc, je pense que c'est important d'essayer de penser à une compatibilité de la liberté et de l'égalité sans pour autant diminuer la liberté. Donc, je vais récapituler maintenant ma progression. Dans une première partie, on verra donc dans quelle mesure il peut y avoir une liberté comprise comme capacité de se distinguer, de se différencier. Et dans ce cas, l'égalité est une menace. Bon, on va essayer de comprendre déjà cette idée. Dans une deuxième partie, on verra comment la liberté doit d'abord être au minimum une égalité de droit. Hein, et dans ce cas-là, l'égalité garantit une liberté minimale. Ce sera plutôt la position moderne, hein, la liberté des modernes. Et puis, donc, dans une troisième partie, penser à une compatibilité, essayer de sortir de la dialectique, sans pour autant réduire la liberté. Hein, de quelle liberté parle-t-on quand on parle d'une liberté compatible avec l'égalité, sans pour autant que ce soit une liberté au rabais. Alors, première partie, donc quelle est cette liberté qui peut se sentir menacée par l'égalité ? Je l'ai développée avec l'image du héros dans l'introduction. Donc, il me semble que c'est la liberté comme différence, comme volonté de se distinguer et, dans le fond, d'être considéré comme unique. Et l'égalité, ici, à ce moment-là, ce serait une uniformisation. Hein, c'est en sens d'uniformisation que l'égalité peut être menaçante, ou en tout cas décevante, pour quelqu'un qui aspire à la distinction, à la gloire. Alors, premièrement, je vais passer en revue un certain nombre de définitions de la liberté hein, au fur et à mesure. La première définition, peut-être assez simple, qui nous vient à l'esprit quand on parle de liberté, être libre, c'est pouvoir assouvir son désir. Hein, je suis libre de faire ce que je veux. Bon, on va dire que c'est la liberté de base, la liberté de l'adolescent, mais n'empêche que, même si c'est une idée reçue, ça vaut le coup quand même d'en tenir compte. Hein. Quand, c'est vrai, quand on veut être libre, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire réaliser ses désirs, assouvir ses désirs. Évidemment, on le verra, les philosophes nous enseignent que c'est pas ça le vrai bonheur, c'est pas ça la vraie liberté. Mais n'empêche que, si on est empêché d'assouvir son désir, est-ce qu'on est vraiment libre? Ça vaut le coup de poser la question. Alors sur ce plan-là, évidemment, la nature ne nous a pas fait égaux. On peut dire que nous avons à peu près les mêmes aspirations, les mêmes désirs, mais nous n'avons pas du tout la même capacité de les satisfaire. Certains sont nés riches, beaux et intelligents, et d'autres, malheureusement, sont nés laids, bêtes et pauvres. Et Aristote le notait déjà, c'est plus facile d'être heureux quand on est riche, beau et intelligent que quand on est bête, pauvre et... Qu'est-ce que j'ai dit déjà ? Je sais plus. Bref, doué d'aucune qualité. Alors, on peut dire dans ce sens-là, si vous voulez, que l'aspiration à la liberté, c'est le terreau de l'injustice. C'est justement parce qu'on a des désirs et qu'on aspire à la satisfaction de ces désirs qu'il y a une injustice flagrante. Tous n'ont pas la même capacité d'assouvir leurs désirs. Alors, je donne un exemple simple, le désir de l'ambitieux ou le désir de l'homme d'arriver politiquement, d'arriver socialement. L'homme courageux pourra satisfaire ce désir. En ce sens, il aura une plus grande liberté. L'homme qui a un caractère craintif, faible, qui n'est pas capable de dire non, qui est pas capable d'être un peu méchant, voire un peu rusé de temps en temps, le faible, donc, ne sera pas capable d'assouvir ce désir et d'ambition, de pouvoir. Et en ce sens-là, on peut dire qu'il a une forme de servitude, il est asservi à son caractère. Alors cette idée, elle est développée de manière très brillante et célèbre par un porte-parole des sophistes que Platon met en scène dans l'un de ses dialogues qui s'appelle le Gorgias. Et ce personnage porte-parole des sophistes, c'est Calliclès. Donc il y a une longue tirade de Calliclès, où Calliclès, évidemment, ça devait donner des cheveux blancs à Socrate et à tous les sages philosophes, parce qu'il va développer une conception très paradoxale pour les philosophes, qui prône la sagesse, l'égalité d'humeur, surtout l'idée qu'il faut avoir le moins de désirs possible, ou en tout cas simplement les désirs nécessaires pour éviter d'être malheureux, etc. J'y reviendrai, hein. Mais ça m'intéresse justement de développer un peu le point de vue autre que celui de la sagesse. Eh bien, Calliclès donc va montrer que pour être heureux et libre, il ne faut certainement pas brider ses désirs. Au contraire, il faut donner libre cours à tous ses désirs. Hein. Donc Calliclès, c'est vraiment la star des adolescents. Quoi. Enfin, pardon pour les adolescents dans la salle, mais souvent, enfin, il me semble que quand on est adolescent, on pense que c'est ça, la liberté. Hein. Donc, donner licence à tous ses désirs. Donc déjà, premièrement, surtout ne pas se brider. Hein. Il faut y aller à fond. Et puis ensuite, il faut mettre toute son énergie et toutes ses capacités à les satisfaire. Et alors, ce que dit Calliclès, c'est que oui, bien sûr, il y a une inégalité, une injustice absolue, puisque seuls sont heureux ceux dont les capacités sont proportionnées à leurs désirs. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout une morale égalitaire, c'est une morale qu'on pourrait qualifier d'aristocratique, au sens où elle est réservée à une élite, à des meilleurs, aux meilleurs. Au meilleur, là, non pas au sens moral, mais au meilleur au sens de la capacité. Donc, par exemple, si vous pensez que le bonheur est dans la débauche, bah, il faut énormément d'endurance pour y arriver. Parce que, bien sûr, ça attire tout le monde d'être débauché, mais il y en a très, très peu qui y arrivent. Hein, parce que c'est très fatigant d'être tout le temps débauché. Donc, ça me fait penser aux héros de Balzac, à certains héros de Balzac dans La Condition humaine, par exemple Rastignac, enfin ceux qui durent jusqu'à la fin. Vous savez, Rastignac, il veut vraiment manger Paris. Quoi. Au début, c'est des héros pleins d'énergie. Puis il y a ceux qui se font complètement bouffer, par exemple Lucien de Rubempré. Je ne sais pas si vous avez lu, ça va remonter cette lecture, mais c'est dans Splendeur et misère des courtisanes, Illusion perdue, Splendeur et misère des courtisanes. Donc il y a toute une saga. Et le pauvre Lucien, bah, il essaye de suivre Vautrin, par exemple, et tous les héros balzaciens forts, mais lui, c'est un faible. Et donc, il y a une décadence. Quoi. Il y a les héros énergiques, il y a ceux qui y arrivent, qui ont vraiment les capacités de leur ambition, qui vont bouffer Paris, qui vont arriver même dans la société. Et puis, il y a ceux qui se laissent, qui n'ont pas suffisamment d'énergie, qui se laissent submerger. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que la conclusion de Caliclès, c'est qu'en fait, les faibles, ceux qui n'ont pas des capacités proportionnées à leurs désirs, eh bien, ils sont frustrés. Et donc, ils vont inventer une morale de la justice et de l'égalité. Et ils vont dire... alors, je vous lis la citation, elle est savoureuse. Donc, c'est Caliclès, personnage certainement fictif, hein, c'est un porte-parole des sophistes, selon Platon. Hein. Mais donc, il y a sûrement une caricature, quand même. Donc, je vous lis le passage, c'est en Gorgias 491e. « En assujettissant les hommes, les meilleurs selon la nature... Et parce qu'on est soi-même impuissant à procurer satisfaction à ses plaisirs, on vante la mesure et la justice par défaut de propre virilité. » Donc quand on n'est pas assez viril, il faut entendre fort, pour satisfaire ses désirs, ce qu'on fait, c'est qu'on va assujettir les meilleurs des hommes, les meilleurs ici, ce n'est pas au sens moral, mais les plus forts, on va les assujettir à une morale, d'accord, artificielle, alors qu'en fait, c'était les meilleurs selon la nature. Mais cette injustice est tellement insupportable qu'on va les assujettir à une morale égalitariste. Hein, donc, ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, etc. Une espèce d'équivalence morale qu'il faut respecter pour être juste. Et ça, parce qu'on est soi-même impuissant à procurer satisfaction à ses propres plaisirs, on vante la mesure et la justice. Voilà la critique de Caliclès. Autrement dit... on voit bien qu'il y a une menace, hein, en ce sens, de l'égalité en tant que morale fictive, morale que Nietzsche, plus tard, bien plus tard, hein, qui est un fidèle disciple du Caliclès de Platon, ici, hein, en ce sens, Nietzsche qualifiera de morale du ressentiment. La morale, c'est le ressentiment du faible qui se venge, hein, qui se venge par des normes fictives. Alors, cette conception de la liberté, d'accord, donner libre cours à ses désirs et les satisfaire en tout point, le plus possible, donc cette liberté qui n'est possible que pour le fort, d'accord. Cette conception, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'oppose en tout point à l'idéal de bonheur et de liberté du sage, et en particulier de Socrate, donc qui va réfuter immédiatement l'argument de Caliclès. Et Socrate aura, en ce sens, des continuateurs, puisque les grandes morales antiques telles que l'épicurisme ou le stoïcisme, elles ont des points de différence évidemment, mais que ce soit la sagesse socratique, l'épicurisme ou le stoïcisme, toutes vont au contraire montrer que le véritable bonheur se trouve donc dans la limitation des désirs. La véritable liberté, c'est pas de faire tout ce qu'on veut, de satisfaire tous ses désirs, ça serait évidemment l'idéal, mais comme de toute façon personne n'est suffisamment fort, personne n'a suffisamment de capacité pour satisfaire les désirs qui sont tout le temps renouvelés, tout le temps croissants. Il y a une insatisfaction foncière du désir. Alors, dans ces cas-là, la seule solution, c'est de limiter les désirs, puisqu'on ne peut pas les satisfaire. Donc, même l'homme fort. Hein, Socrate, donc, à ce moment-là, quand il, dans le dialogue avec Caliclès, il a cette métaphore célèbre qui est la métaphore du tonneau des Danaïdes. Hein, il va comparer le désir humain au tonneau des Danaïdes. Vous savez, les Danaïdes qui ont été condamnés dans le mythe, à remplir indéfiniment, comme tout châtiment d'ailleurs, hein, un tonneau percé. Donc en fait, satisfaire ses désirs, c'est être condamné à remplir un tonneau percé qui se vide au fur et à mesure qu'on le remplit. Donc la liberté, pour la sagesse grecque, c'est l'autosuffisance. Puisque en contrôlant ses désirs, en ayant un nombre de désirs limité, on va être capable de choisir uniquement ceux que l'on peut satisfaire, et donc on ne se rendra pas dépendant des circonstances. Donc justement, on peut être, pour Socrate, libre et heureux, même si on est laid, vieux, ce qui était son cas, et pauvre, ce qui était aussi son cas. Et condamné à mort, hein. Même condamné à mort, on peut être heureux. Alors, ce qui m'intéresse pour notre sujet, c'est qu'on voit ici la figure du sage comme un être qui est à égalité d'humeur. Hein. Contrairement au tempérament passionné de Caliclès, hein, qui va donc faire l'éloge du déchaînement des passions. Hein, donc, je joue un peu sur les mots avec le terme d'égalité, mais l'égalité, vous allez voir que ce n'est pas complètement gratuit. L'égalité pour Platon, elle est d'abord dans l'âme. L'égalité du sage, c'est d'abord une égalité d'humeur, hein, une disposition vertueuse à ne pas se laisser emporter par ses passions. Donc on a cette idée d'absence de grande passion parce qu'on est gouverné par la raison quand on est sage. Socrate, par exemple, dit en 492, toujours dans le Gorgias, « Au lieu d'une vie d'incomplétude et d'incontinence, il faut chercher une vie harmonieuse et se suffisant à elle-même, se contentant de ce qui est toujours à portée de notre main. » Donc apprendre à se contenter de ce qu'on a. Et ne pas laisser libre cours à des désirs qui sont toujours en train de s'augmenter. Alors, je vais m'arrêter sur la notion d'harmonie, qui est absolument fondamentale chez Platon. Vous allez voir que ça va nous permettre de penser la liberté et l'égalité. Ou justement, la liberté qui n'est pas dans l'égalité. La liberté intérieure du sage, elle est décrite par Platon comme une harmonie. Alors, cette fois, je fais un petit saut vers la République, d'accord, au livre 4. Platon donc, décrit l'âme humaine en disant qu'elle a trois parties. Hein. C'est une théorie fameuse de la tripartition de l'âme chez Platon. Donc, il y a l'esprit, hein, la partie la plus haute. La partie la plus basse, hein, je prends l'extrême inverse, l'extrême opposé, l'opposé, c'est ce qu'on va traduire par les instincts, mais pas au sens animal, hein, les désirs justement incontrôlables. C'est le ventre, hein, d'accord, c'est l'appétit, quoi, les désirs sexuels et puis les désirs même du corps en général. Et puis entre les deux, il y a l'énergie, le souffle. Voilà, donc c'est les trois parties de l'âme. Et cette énergie ou ce souffle peut se porter soit être dirigé soit par la raison, soit plutôt être au service des besoins du corps, des instincts. Bon, ce que dit Platon, c'est qu'en fait, la partie désirante, ce que j'appelle ici les instincts, peut être tyrannique. C'est-à-dire qu'un homme qui s'habitue à se laisser gouverner par la troisième partie de l'âme, peut être un homme qui en fait va perdre sa liberté intérieure parce que les désirs sont tyranniques pour la raison qu'on a indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on en veut toujours plus. Donc plus vous vous débauchez et plus la débauche va vous rendre accro, hein, pour moderniser. Voilà, c'est le mécanisme de l'addiction, c'est-à-dire que plus on laisse libre cours à ce type de désir et plus on va devenir esclave, d'accord ? Donc les instincts, les désirs sont tyranniques. Et les instincts et les désirs absorbent toute l'âme. Donc dans le fond, si on doit reprendre l'idée d'harmonie, il n'y a plus d'harmonie à l'intérieur de l'âme, parce que l'harmonie, c'est quoi ? C'est quand chaque partie joue son rôle, joue sa partition, quoi, comme dans un orchestre. Et donc, si on laisse la partie désirante prendre le dessus, la raison est étouffée, ou la raison n'est plus que calcul pour chercher à satisfaire son vice. Hein. On sait tous ce que c'est qu'une addiction, plus ou moins vicieuse ou plus ou moins méchante. Ça peut être tout simplement une addiction, je ne sais pas moi, aux séries télévisées. On sait bien qu'on trouve toujours des justifications. Hein. Donc la raison est étouffée par la passion, elle est étouffée par le désir. Et puis de même, toute l'énergie, hein, je vous ai dit, il faut beaucoup d'énergie pour être débauché, toute l'énergie est mise au service de ce désir tyrannique. Autrement dit, quand on laisse la troisième partie de l'âme, la partie désirante, la partie instinctive gouverner, en fait, eh bien, c'est la tyrannie. Alors qu'à l'inverse, dit Platon, si c'est la raison qui gouverne, l'harmonie va régner dans l'âme. Donc ce n'est pas la raison qui va prendre le dessus sur les autres. Elle va gouverner, c'est-à-dire elle va indiquer la direction et laisser à chaque autre partie sa place, la place qui lui revient. Donc il est nécessaire de satisfaire certains désirs du corps, évidemment. Il faut manger, il faut satisfaire l'appétit sexuel, etc. Mais dans une certaine limite indiquée par la raison, ou selon un certain sens, un but indiqué par la raison. De même, l'énergie ne va pas être grignotée absolument comme elle était avec le désir. Elle va être laissée dans sa sphère. Voilà, donc ce que dit Platon, j'ai un long détour pour vous expliquer qu'en fait, la sagesse, ce n'est pas dans le fond une égalité, je disais tout à l'heure, égalité d'âme. Non, en fait, c'est l'harmonie intérieure. Et la vraie liberté, c'est l'harmonie intérieure. Ce qui m'amène sur le plan politique. Parce que dans la République, vous avez sûrement idée un peu de ce texte, ce qui est structurant dans la République, c'est qu'en fait, ce qui est posé, c'est d'abord une question politique, c'est la question du meilleur régime, hein, question classique de la philosophie politique, donc qui va être décrit par Socrate, enfin par la bouche de Socrate. Mais pour décrire le meilleur régime, le régime le plus juste, enfin la cité la plus juste, eh bien, Socrate va passer par un détour, il va faire une analogie avec l'âme. Donc il va d'abord dire ce que c'est une âme juste, l'âme d'un homme juste, et ensuite, à partir de là, il va dire ce qu'est une cité juste. Et donc vous m'avez comprise, j'espère. C'est qu'en fait, dans l'homme juste, c'est celui qui a une âme où chaque partie joue son rôle. Et la cité, donc une âme harmonieuse et pas une âme où tout est égalisé. Et bien de même, la cité juste, c'est une cité où chaque partie, chaque classe de citoyens va jouer son rôle, va jouer le rôle qui lui revient et va avoir ce qui lui revient. Donc la liberté n'est pas garantie par une égalisation, mais par une harmonie. L'harmonie étant laisser à chacun la place qui lui revient. Et c'est ça la véritable justice. Donc ce n'est pas une justice égalité, mais plutôt une justice équité. Hein. Si on doit faire jouer cette distinction classique, ce qui est l'équité, ce n'est pas jouer des rôles identiques. L'équité, c'est jouer le rôle qui me revient selon ma nature. Ici, pour Platon, c'est vraiment une question de nature, c'est-à-dire les citoyens appartiennent à telle ou telle classe par nature. La classe de ceux qui gouvernent, c'est les philosophes. La classe des guerriers, vous voyez, les philosophes qui gouvernent, vous voyez, la partie de l'âme, c'est l'esprit, l'âme rationnelle. Et puis il y a les guerriers, donc c'est l'énergie. Hein. Et puis enfin, il y a les laboureurs et les artisans qui produisent de quoi satisfaire les besoins. Voilà. Alors, je n'ai pas l'heure, donc tu pourras me... Je suis partie, bref. Tu m'indiques si... Il me reste 25 minutes, donc je vais accélérer. D'accord, merci. Voilà, donc on voit ici que l'égalité peut être une menace dans la mesure où ce qui garantit la véritable liberté, c'est la hiérarchie. C'est l'harmonie. La hiérarchie étant non pas la domination, d'accord ? Non pas un rapport uniquement de pouvoir. La hiérarchie, c'est un ordre juste ici, sans faire aucune allusion à quelconque slogan politique, mais c'est un ordre juste. Quoique ce serait à peu près juste pour Platon de parler d'ordre juste. Hein, on a bien un tout, en fait. La cité est un tout parce que chacun y a sa place et est gouverné selon un principe qui est la connaissance du bien. Puisque celui qui gouverne, c'est le philosophe roi. Vous le savez, la fameuse théorie du philosophe roi chez Platon. Et pourquoi il gouverne ? Non pas parce qu'il est plus fort, non pas parce qu'il aime le pouvoir, surtout pas. Il faut lui donner le pouvoir parce qu'il ne le veut pas. Hein, ça, c'est une grande idée chez Platon, j'aime bien. On donne le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne parce qu'ils connaissent le bien. Hein, donc c'est les seuls aptes à conduire selon la raison, l'ensemble. Bon, un dernier point, mais je suis vraiment trop longue. Un dernier point pour continuer à penser cette idée selon laquelle la liberté peut être menacée par l'égalité. J'avais fait allusion à la fameuse morale aristocratique, donc j'aimerais bien en dire un mot quand même dans un dernier temps ici, de cette première partie. Ce qu'on peut appeler la morale aristocratique, enfin, là je m'appuie plutôt sur donc, la morale de la générosité de l'homme généreux chez Descartes. La morale aristocratique, c'est un code d'honneur. Hein, c'est l'idée que le rang auquel on appartient oblige à se distinguer. Hein, on va dire que c'est la morale du chevalier. Bon. S'il y a obligation, c'est, on disait, noblesse oblige d'ailleurs. C'est parce que il ne s'agit pas de se démarquer par intérêt personnel ou par orgueil, hein, mais d'abord dans l'intérêt du tout. Le grand homme, c'est celui dont l'intérêt personnel ou privé coïncide avec l'universel. En tout cas, c'est la manière dont Descartes a voulu le développer. Donc, c'est amusant parce que Descartes, c'est les débuts de la modernité, mais pas en politique ni en morale, il me semble. Donc, il y a un certain nombre d'écrits où il parle de morale. Il y a la morale par provision qu'on voit donnée dans le discours de la méthode, où d'ailleurs il va rejoindre la sagesse grecque, hein, la capacité à maîtriser mes désirs plutôt que vouloir changer l'ordre du monde. Donc, c'est presque une citation mot pour mot d'un stoïcien. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de laisser libre cours à son désir quand on a une morale de la grandeur ou de la distinction. Non, il faut savoir maîtriser ses désirs. En revanche, il faut, et là c'est plutôt dans une correspondance avec la princesse Élisabeth de Bohême qu'on le voit, ce que montre Descartes, c'est que L'homme généreux, il l'appelle comme ça, est vraiment celui qui est capable de se considérer comme une partie du tout. Il dit comme ça. Donc ça peut être une partie de sa famille, une partie de la société à laquelle on appartient, une partie du monde, une partie même peut-être de l'humanité. Ah oui. Je vais vous donner juste une citation que je cherche dans mes multiples papiers. Il dit que cet homme-là ne craint pas d'exposer sa vie pour le service d'autrui lorsque l'occasion s'en présente. Il s'agit de préférer les intérêts du tout dont on est parti à ceux de sa personne en particulier. Et donc, évidemment, ici, il n'est pas du tout question d'égalité. L'égalité, ce serait comme un frein qui condamne à une sorte d'existence terne et commune. Descartes dit même à un moment, dans ce texte, juste après, il dit que il faut vouloir préférer les intérêts du tout, toujours avec intelligence et discernement. Et il dit, j'aime bien, parce que c'est très étonnant pour nous, si un homme vaut plus à lui seul que tout le reste de sa ville, alors il doit peut-être s'abstenir. Si un homme à lui seul vaut plus que tout le reste de sa ville, il vaut mieux pour la ville, pour l'intérêt du tout, qu'il évite de mourir immédiatement. Bon, c'est amusant parce que nous, justement, on est quand même pétri d'égalitarisme et on se dit comment un homme peut valoir à lui seul plus que tout le reste de sa ville. Mais c'est encore ça, je crois, la morale aristocratique. Alors, ce n'est pas un homme qui vaut plus en termes d'argent ou en termes évaluables, c'est un homme qui vaut plus en termes moraux. On peut penser à Socrate, justement. Est-ce que ce n'était pas une très grande perte pour Athènes que Socrate sacrifie sa vie ? C'était en tout cas l'argument que donnaient ses amis pour qu'il évite la peine de mort. Voilà, donc l'homme qu'il appelle généreux, Descartes, c'est l'homme qui est capable de renoncer à satisfaire ses passions privées, justement. Il se met au-dessus des passions, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il maîtrise ses désirs. Il n'est pas là pour satisfaire ses passions privées. Et en renonçant à satisfaire ses passions privées, il s'élève au-dessus du commun et il se rend capable de porter son intérêt vers le tout. Voilà, donc j'en arrive enfin à une transition. On a vu... merci. Ok. Que l'égalité était une conception minimale et limitative de la justice, selon les différentes conceptions que j'ai développées. L'égalité, ce n'est pas l'harmonie. L'égalité, c'est une égalisation, une uniformisation qui peut apparaître, pour une telle conception de la liberté, extrêmement décevante. Cependant, j'y ai fait allusion en introduction, il me semble quand même que cette recherche d'égalité, cette demande d'égalité, il faut la prendre au sérieux dans la mesure où il me semble que quand on cherche à être considéré à l'égal des autres, il y a une demande qui n'est pas seulement une demande d'ordre, je le disais, matériel, mais qui est une demande de reconnaissance, une demande d'ordre éthique. Et en effet, si l'idée d'une différence de valeur entre les hommes scandalise, je vous disais tout à l'heure, ça me fait rire, mais en fait, ça peut être scandaleux, cette phrase de Descartes. Si un homme à lui seul vaut plus que tout le reste de sa ville, ce n'est pas seulement drôle, c'est scandaleux. Et pourquoi ça nous scandalise ? C'est qu'en fait, on est habitué, en tout cas, c'est à partir de la notion de dignité de l'homme. C'est-à-dire que le fait simplement d'être un homme ou d'appartenir au genre humain nous donne une valeur non négociable. Et une valeur qui, justement, n'est pas une valeur évaluable. C'est tout à fait paradoxal ce que je dis. Au sens où on ne pourrait pas comparer la valeur de tel homme par rapport à la valeur de tel autre. Une valeur incommensurable. Donc on parle de valeur, peut-être qu'on pourrait de valeur de chaque homme, mais dignité c'est bien mieux. Parce que justement, la dignité, on sort de l'évaluable. Et dans ce cas-là, il me semble que l'égalité maintenue par un état de droit protège cette liberté qui est présente en chaque homme. Donc ce sera la deuxième partie. Si si je la retrouve. Voilà. Alors, donc, dans quelle mesure la liberté peut être garantie par l'égalité ? On peut considérer l'égalité non pas comme une menace, mais comme une garantie. Et du coup, de quelle liberté parle-t-on dans ce cas-là ? Parce qu'évidemment, ça ne sera pas la même que la liberté que j'ai essayé de décrire dans la première partie. Alors, la liberté, on a dit tout à l'heure, première définition, c'est pouvoir satisfaire ses désirs. On peut aller un peu plus loin maintenant, et la liberté, elle est souvent définie aussi comme la capacité ou la possibilité de choisir. Mais choisir ne suffit pas. Pour être vraiment libre, il faut aussi que je puisse mener à bien mon choix, que je le puisse le réaliser, que je puisse entreprendre jusqu'au bout ce que j'ai choisi de faire. Donc la liberté, c'est pas seulement choisir de manière abstraite, mais c'est vraiment avoir la capacité réelle de faire ce que je veux, de faire ce que j'ai choisi. Et en fait, on peut avoir une liberté formelle, ce qu'on appelle souvent en théorie politique la liberté formelle. Donc on peut avoir le droit de faire quelque chose, mais pour autant, c'est pas sûr qu'on ait la capacité réelle, d'accord ? Souvent, on oppose liberté formelle et liberté réelle, hein, quand on fait ce type de critique. C'est-à-dire qu'il suffit pas qu'il me soit pas interdit de faire quelque chose pour que j'aie vraiment la liberté de le faire. On peut prendre un exemple d'actualité simple, accéder aux grandes écoles. Tout le monde a la liberté formelle de le faire. Hein. Accéder aux grandes écoles, c'est interdit à personne. Sauf que, est-ce que tout le monde a la capacité réelle d'y accéder ? Vous savez que c'est une des réflexions qui a été menée il y a quelques années, à partir du moment où certaines grandes écoles ont décidé de mener une politique de discrimination positive dans leur recrutement. Donc je ne prends pas position, on pourra revenir sur ces questions-là, hein, parce que je crois qu'on est au cœur du problème. Mais vous voyez, c'est ce type de questionnement qui se pose. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le choix, de pouvoir choisir, encore faut-il pouvoir réaliser jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir la capacité. Donc il me semble qu'être libre, c'est aussi avoir la capacité de faire ce qu'on veut. Pas tout ce qu'on veut, mais de faire au moins ce qu'on a pu décider. Et en ce sens, on pourrait penser que le rôle de l'État serait d'assurer une certaine forme de liberté ou de capacité réelle. Alors non pas en abaissant ceux qui peuvent, quand même pas, non pas en disant « bon bah puisque certains ne peuvent pas rentrer dans les grandes écoles, on va faire en sorte que personne n'y aille ». Quoique, hein, on peut se demander si parfois c'est pas une idée qu'effleurent certains politiques qui veulent par exemple supprimer les classes prépa, vous voyez, enfin, c'est une question que je pose. Hein. Donc vous voyez, ça peut être, non mais ça peut être, j'ouvre le débat pour tout à l'heure, ça, effectivement, si tout le monde ne peut pas y aller, à ce moment-là, personne n'y va, ça peut être une manière d'égaliser. Hein. Ou alors, ce qui me semble déjà un petit peu plus sage, en tout cas en première intention, garantir les conditions d'une égalité de capacité. Hein. Essayer de faire en sorte de rétablir une égalité pour que tout le monde puisse y aller. Voilà, donc on peut analyser l'idée selon laquelle l'état de droit, c'est un état qui est fondé à partir de cette recherche des conditions réelles de l'égalité des citoyens. La notion d'état de droit, on peut l'avoir émergé en particulier dans la pensée de Hobbes au XVIIe siècle. Donc il y a deux œuvres majeures, c'est Du citoyen et puis Le Léviathan. Donc je décris rapidement le processus du fondement de l'état chez Hobbes. Donc en fait, comme beaucoup de penseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, il va partir d'une fiction, enfin d'une théorie de l'état de nature. Donc c'est une manière nouvelle de penser le politique, c'est-à-dire que pour les anciens, l'homme est naturellement social, donc politique, donc la question ne se pose pas de savoir d'où vient le politique, sur quoi il est fondé, puisque de toute façon il est par nature. Après, on va se demander quel est le meilleur des régimes, hein, mais ce n'est pas la même question. Ici, l'homme n'est pas par nature politique. L'État, avant la société, n'est pas un État de droit. Donc, il décrit, alors, avec une fiction, c'est-à-dire que l'État de nature qui est décrit, ce n'est pas une hypothèse historique, hein, mais c'est une manière de se donner des conditions intellectuelles pour comprendre les fondements de la société politique. Et donc, vous le savez, il a cette fameuse phrase, c'est que l'homme, à l'état de nature, est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que c'est un état de guerre de tous contre tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la guerre, elle est due à quoi ? Elle est due à l'égalité des hommes, à l'état de nature. C'est-à-dire que chacun a un droit naturel, la liberté fondamentale, naturelle, de chercher tous les moyens nécessaires à la conservation de sa vie. Donc c'est un droit naturel au sens où à l'état de nature, il n'y a pas d'interdit. D'accord ? C'est une liberté fondamentale de chacun que d'essayer d'assurer sa survie par tous les moyens. Et ce moyen, ça peut être de tuer celui qui s'oppose à moi. Donc les hommes sont égaux, ils ont les mêmes besoins, ils ont les mêmes désirs et ça les rend violents. Donc ils cherchent à se dominer, à se nuire. Ils cherchent aussi à rivaliser. D'accord ? Donc ça peut être une guerre directe ou une guerre symbolique aussi. Ils rivalisent, ils essayent de briller les uns devant les autres, de paraître, etc. Donc vous voyez, en fait, on a une égalité, mais qui n'est pas durable, qui est menacée constamment. Parce que l'égalité nous conduit à vouloir nous distinguer, justement. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, vous voyez, pour ce penseur. C'est que l'égalité est insupportable. Parce qu'elle est dangereuse, elle nous menace. Donc en permanence, on essaye de se distinguer, de dominer, d'être plus fort, de créer une inégalité par la domination. Et donc, en fait, il y a un calcul quoi, d'intérêt, c'est-à-dire que les individus vont se rendre compte qu'il vaut mieux qu'ils évitent cette guerre perpétuelle, cette menace perpétuelle, cette crainte. Ils vivent perpétuellement dans la crainte d'une mort violente qui peut arriver à tout instant. Et donc, le droit naturel fait qu'il va devenir plus intéressant, plus logique, conformément à cette tendance à préserver sa vie, de vivre dans un état politique. Et donc, les citoyens vont passer un contrat entre eux, ils vont renoncer à leur droit de se défendre eux-mêmes, ils vont le confier à un souverain tout-puissant, il faut absolument que le souverain soit tout-puissant, et le souverain tout-puissant va assurer la sécurité. Donc, il faut une monarchie absolue, enfin pas forcément une monarchie, mais il faut un pouvoir absolu pour Hobbes. Hein. Parce que si le pouvoir n'est pas absolu, il est pas du tout. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un, vous voyez, qui s'échappe, enfin qui sorte du contrat pour que tous soient menacés, puisque tous ont renoncé à leur droit de se défendre par eux-mêmes. Voilà le schéma. Donc on voit ici, vous voyez, que l'égalité à l'état de nature est une menace. Je disais tout à l'heure, en reprenant les analyses de Michéa, qu'en fait, pour les modernes, selon Michéa, il y a l'expérience traumatisante de la guerre civile, de la guerre civile ou des guerres de religion. Et cette expérience traumatisante fait aspirer à la paix avant tout. On est là typiquement dans le schéma de pensée de Hobbes. C'est-à-dire que le but de l'État, c'est de garantir en premier lieu la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a une liberté sans interdit à l'état de nature, mais elle est constamment menacée. Donc à quoi sert d'avoir un droit naturel qui nous amène une liberté naturelle si cette liberté et ce droit naturel est constamment menacé. Donc il vaut mieux une liberté minimale, il vaut mieux renoncer à certaines libertés, et une liberté minimale qui sera simplement là, assurée par la sécurité, c'est la liberté, disons, une liberté privée, la liberté de s'occuper de ses affaires. Voilà. Privée. Donc, on voit dans ces analyses que la liberté, il est vrai, tendance à vouloir se distinguer des autres. Hein. On le voit même dans la description de l'état de nature que fait Hobbes. Les hommes cherchent constamment à se dominer les uns les autres, à se distinguer les uns par rapport aux autres. Mais en même temps, cette liberté, elle est contradictoire. Elle se contredit elle-même. C'est-à-dire, plus on essaye de dominer, plus les hommes essayent de se dominer les uns les autres, et plus ils créent un état instable, un état d'insécurité permanente qui, en fait, les menace. Les sociétés modernes, et en particulier les sociétés démocratiques, ce qui n'est pas la société décrite par Hobbes, mais on peut dire que les sociétés modernes, fondées donc sur l'idée d'un état de droit, d'un état qui est là pour garantir un droit minimal des individus, et donc une protection ici, une sécurité. Les sociétés modernes ne conçoivent pas la liberté sans l'égalité des conditions. C'est-à-dire que l'égalité des conditions, l'égalité des différents individus, on va dire pour l'instant, est le principe même de la liberté, d'une possibilité de liberté. Alors ça a été analysé par Tocqueville, Alexis de Tocqueville, dans notamment De la démocratie en Amérique. Donc Tocqueville, c'est un intellectuel du début du 19e siècle, il a connu la Révolution française, il a analysé d'ailleurs les causes de la Révolution française, et il va définir la démocratie comme un processus sociologique. C'est-à-dire pour lui, la démocratie, c'est pas en premier lieu un mode de gouvernement, d'accord, ou un régime politique. La démocratie, c'est un processus social d'égalisation des conditions qui est en marche depuis déjà un certain temps, quand il écrit, selon lui. Hein. Donc, il écrit au début du 19e siècle, mais il pense que c'est déjà en marche depuis au moins le règne de Louis XIV en France, qui est un effort pour centraliser le pouvoir, par exemple. En fait, il va expliquer par exemple la Révolution française par une contradiction. C'est-à-dire que le processus d'égalisation des conditions était déjà là depuis longtemps, mais les institutions ne correspondaient plus à l'état réel de la société. C'est-à-dire que les différents ordres avaient tendance à s'égaliser, à s'harmoniser. La bourgeoisie et la noblesse vivaient presque de la même manière, presque, dit-il. Il y avait quand même des petites différences, mais elles tendaient à s'amoindrir. Et pourtant, la bourgeoisie avait très très peu le pouvoir, alors que, en tout cas les honneurs et le prestige, alors que la noblesse les concentrait. Et donc, il y avait une contradiction qui est arrivée à la Révolution française. C'est comme ça qu'il l'analyse. Pourquoi il y a révolution ? C'est parce que justement, les inégalités de droit deviennent insupportables, ne sont plus supportables dans la mesure où il y a inégalité dans les faits. Alors le problème que pointe Tocqueville, c'est que l'égalité peut dériver en despotisme dans les sociétés démocratiques modernes. Il est lecteur de Montesquieu et Montesquieu avait montré que dans les monarchies d'Ancien Régime, il y a un pouvoir important, absolu parfois du souverain, mais il est compensé par justement la liberté de la noblesse qui rivalise d'honneur, hein, qui rivalise pour se distinguer et qui du coup est toujours un peu en concurrence avec le pouvoir du roi. Autrement dit, la noblesse est un contre-pouvoir dans les monarchies. Le problème, c'est que dans la démocratie, il n'y a plus de tel contre-pouvoir, c'est-à-dire il y a une égalisation des conditions. Donc, il n'y a plus cette rivalité, cette volonté de se distinguer, de moins en moins en tout cas. Ce qui fait que ça laisse la place libre à un certain despotisme. Et qu'est-ce que c'est que le despotisme ou la tyrannie ? C'est une égalité dans l'asservissement. Et donc, tout le problème de Tocqueville, ça va être de dire, on constate l'égalisation des conditions, on la constate en Amérique, hein, qui est donc... évidemment, on avance sur les sociétés européennes quant au processus de démocratisation. Ça va vraisemblablement arriver en France, où c'est en train déjà de se faire. Comment une égalité dans les sociales peut être compatible avec la liberté ? Donc, il dit que la société américaine a mis en place un certain nombre de contre-pouvoirs qu'il énumère. Donc, par exemple, le fédéralisme, le fait qu'il n'y ait pas un État centralisé, mais qu'il y ait des responsabilités intermédiaires à l'échelle des États américains. La liberté d'association, la liberté de la presse, qui est très grande, qui est même illimitée aux États-Unis. Et la religion. La religion est un contre-pouvoir parce que c'est une sorte de moralisation intérieure des individus. Et en fait, tous ces intermédiaires, ces contre-pouvoirs, la liberté d'association, la liberté de la presse, la religion, le fédéralisme, ils préviennent l'isolement qui peut arriver dans les sociétés démocratiques. C'est-à-dire qu'à force d'égalisation des conditions, on peut avoir une atomisation des individus. On va vers l'individualisme. Et le fait qu'il y ait des corps intermédiaires, des associations, des groupements, des communautés, des associations par affinité de religion, etc., ça permet d'éviter cet isolement des individus, qui sont certes tous égaux, mais qui en même temps sont de plus en plus isolés, de plus en plus atomisés, et sur qui pourrait éventuellement, Tocqueville le prévoit, le craint aussi, sur qui pourrait s'exercer un despotisme d'autant plus puissant qu'il n'y a plus de corps intermédiaire ou d'organisation sociale intermédiaire pour protéger les individus du pouvoir. Tocqueville va même jusqu'à parler, vous connaissez peut-être l'expression, d'une passion de l'égalité dans les sociétés démocratiques. Donc passion, hein, c'est à entendre dans les deux sens, c'est-à-dire la passion, c'est un amour très grand, mais c'est aussi quelque chose qu'on subit, hein, quelque chose de négatif, une passion, une sorte d'asservissement moral. Et il dit que parfois, cette passion de l'égalité, s'il faut choisir, est préférée à la liberté. Je vous cite une phrase de La démocratie en Amérique, tome 2. « Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté, mais ils ont pour l'égalité une passion ardente. » Il y a un goût pour la liberté, mais il y a une passion ardente pour l'égalité. « Elle est insatiable, éternelle et invincible. Ils veulent l'égalité dans la liberté, et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. Ils souffriront la pauvreté, l'asservissement, la barbarie, mais ils ne souffriront pas l'aristocratie. » Donc on préfère, s'il faut choisir, on préfère l'égalité à la liberté. Et donc en fait, ce que Tocqueville entrevoit ici, parfois il a été considéré comme un auteur prophétique en ce sens, parce qu'il prend quelques traits des sociétés démocratiques qu'il observe essentiellement aux États-Unis, et puis il fait ce qu'on appelle un idéal type, et il va essayer de penser les conséquences possibles. Une sorte de modèle qu'il va essayer de pousser jusqu'au bout. Et du coup, il y a des choses qui sont assez prophétiquement devinées par Tocqueville, et notamment le fait que les sociétés démocratiques et l'égalisation des conditions, qui au départ, on l'a vu, a pour objectif de garantir une liberté minimale, hein, donc qui a une certaine parenté avec le libéralisme politique, en fait, porte en germe cependant, paradoxalement, le despotisme, la tyrannie, voire ce qui sera appelé au XXe siècle le totalitarisme. Par exemple, Hannah Arendt, quand elle analyse les origines du totalitarisme, elle montre que le système totalitaire, c'est-à-dire non pas justement uniquement la tyrannie, mais le moment où le pouvoir pénètre toutes les sphères de la vie individuelle, c'est ça le totalitarisme, n'est rendu possible que parce qu'il y a une société de masse. Et une société de masse, c'est quoi ? C'est des individus absolument égaux, mais totalement atomisés. Sans corps intermédiaire, associations, religions, familles, suffisamment forts pour les protéger du pouvoir de l'État centralisé. Donc on en arrive à une nouvelle contradiction. On disait que la liberté de distinction, de domination, elle se contredit elle-même, mais on voit aussi que l'égalité, poussée dans sa logique extrême, peut se contredire elle-même, en tout cas avec les analyses de Tocqueville. Parce que l'égalité protège la liberté de tous, mais la passion de l'égalité poussée jusqu'au bout menace peut-être la liberté de chacun. C'est-à-dire qu'à vouloir assurer les conditions réelles de l'égalité, est-ce que, du coup, on n'étouffe pas l'élan de liberté de tel ou tel. Il y a une sorte de contrainte qu'on doit exercer sur la société pour abolir les différences. Autrement dit, dans cette passion de l'égalité, vous voyez, toute différence devient insupportable. Et c'est en cela que la passion de l'égalité démocratique porte en germe le despotisme pour Tocqueville. Donc on en arrive à un antagonisme, à une impossibilité de réconcilier là, ici, une liberté, un élan vers la liberté et puis la passion de l'égalité. Au point que Tocqueville pense qu'il sera possible qu'on doive choisir et qu'on choisira l'égalité. Alors, du coup, dans un dernier moment, je voudrais demander si ou dans quelle mesure on peut les penser ensemble. Il me semble que si on en reste à une conception individualiste de la liberté, si on considère que la liberté est un droit subjectif, en fait, une possession individuelle, alors la présence des autres sera toujours un problème. C'est-à-dire que le fait d'être l'égal des autres et donc que soit garanti aux autres la même liberté qu'à moi, ça sera toujours dans le fond un problème. C'est-à-dire qu'on ne m'accorde de la liberté que dans la mesure où je suis prêt à reconnaître la présence de celle des autres qui, évidemment, limite en partie mes aspirations. Donc tant qu'on considère la liberté comme un bien uniquement individuel, autrement dit tant qu'on est dans un schéma individualiste, voire libéral, hein, c'est-à-dire on va voir les individus comme des atomes, d'accord, séparés les uns des autres et gouvernés par la recherche de la satisfaction de leur intérêt. Tant qu'on en reste à cette vision-là de la liberté, il me semble que l'égalité avec la liberté des autres sera toujours un problème dans le fond. Une restriction en tout cas, une liberté minimale certes, mais sûrement pas tout à fait satisfaisante pour qui veut vraiment aller jusqu'au bout d'une liberté qui le distingue, qui en fait quelqu'un d'unique. Et donc, la question qu'on peut poser, c'est n'est-on pas d'autant plus libre qu'on est capable de concevoir l'intérêt général et justement de ne pas simplement essayer de satisfaire son intérêt particulier. Il me semble que la liberté, elle n'est pas menacée par le fait de vivre dans une société, elle n'est pas menacée par la vie en commun. Il me semble que peut-être on peut essayer de penser une liberté qui s'épanouit dans la vie en commun. Voilà, donc je vais voir dans cette troisième partie dans quelle mesure on pourrait se demander si la présence d'autrui, qui est mon égal, n'est pas un appel à la liberté plutôt qu'une menace pour ma liberté. Voilà, donc vous l'avez compris, mon but c'est de montrer que autrui ne menace pas, parce que la liberté c'est pas nécessairement une rivalité avec autrui tel que Hobbes le décrit par exemple dans l'état de nature. Alors, parler d'égalité, ça suppose qu'on mesure, hein, ça suppose une mesure commune. En fait, on ne parle d'égalité que pour ce qui est comparable. Donc on va dire que c'est plus ou moins, ou que c'est égal. Autrement dit, ça suppose une quantification de parler d'égalité. Hein. On va dire qu'il y a équivalence de quantité entre tel et tel. Vous me suivez? Donc, pour revenir à Tocqueville, il prend l'exemple des métiers. Et il est frappé par le fait, donc faut encore penser que Tocqueville est un aristocrate français qui vient de vivre la Révolution française, donc on sort à peine de l'Ancien Régime, il va aux États-Unis et il est frappé par le fait, nous on est plus habitués à cette idée, qu'il n'y a pas de différence de valeur vraiment foncière entre les différents métiers. Tout métier est un job, quoi. Enfin, il le dit pas comme ça, hein, mais c'est-à-dire que, en fait, il y a pas de saut métier aux États-Unis. Hein, on peut effectivement admirer cette mentalité américaine. Il y a pas de saut métier. Tout métier est un job valable dans la mesure où il permet de gagner sa vie. Et alors que, bien entendu, dans la société d'ancien régime française, la question, on n'évalue pas les différents métiers en fonction de l'argent qu'ils permettent de rapporter pour gagner sa vie. Hein, puisque par exemple, prendre les armes, enfin devenir militaire, c'est pas un métier en ce sens. Vous voyez, c'est pas pour gagner sa vie, c'est pour servir son pays qu'on le fait. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment un métier en ce sens-là. De même, les fonctions politiques ne sont pas un métier. Et il y a du coup une valorisation différente, hein, de celui qui fait un petit métier pour gagner sa vie et de celui qui prend les armes pour servir son pays. Et donc, il montre qu'en fait, toutes les professions étant salariées, il n'y a plus de différence de nature entre les différentes professions. Il n'y a plus de différence de nature, de caractère incomparablement différent, comme il pouvait y avoir entre les différentes fonctions des ordres dans une société d'ancien régime. Et donc, en fait, cette différence entre les métiers... Donc elle est quantifiable parce qu'il y a le salariat, vous voyez, donc il y a une échelle à peu près qui permet de mesurer les différences. Eh bien, elle est supportable, cette différence, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir une société où tout le monde aurait une égale condition au réel. Il y a bien des différences. La question, c'est quel est le critère de la différenciation ? D'accord ? Dans une société d'ancien régime, c'est la naissance. Dans une société démocratique, c'est le mérite. Donc la différence de rétribution des métiers est supportable dans la mesure où elle est fondée sur le mérite et où il y a une égalité des chances, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité d'ascension. C'est-à-dire celui qui est fils de cireur de chaussures peut devenir peut-être salarié, voire cadre, voire chef d'entreprise. Vous voyez, c'est rendu, l'inégalité est rendue supportable grâce à la mobilité. Et donc, justement, quand il n'y a pas suffisamment de mobilité dans la société, quand on a l'impression qu'on est privé de la possibilité d'ascension, eh bien, l'inégalité, là, devient insupportable. C'est pour ça que l'égalité des chances est si importante. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la discrimination positive à l'entrée des grandes écoles. Hein, on supporte qu'il y ait une élite si tout le monde peut accéder à l'élite, réellement. Mais si l'ascenseur, comme on dit, social est grippé, et s'il n'y a pas une réelle mobilité dans la société, alors les inégalités sont insupportables. Ce qui m'amène donc au point auquel je tiens depuis le début, parce que je l'ai annoncé, c'est qu'il y a comme enjeu, je crois, l'enjeu de la reconnaissance. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que je risque, c'est-à-dire que l'inégalité est insupportable quand il n'y a pas de mobilité sociale suffisante, non seulement évidemment pour des raisons économiques que l'on comprend, mais aussi, je crois, pour des questions morales, des questions de reconnaissance. Et moi, je n'ai pas droit à, c'est dans le fond, et moi, j'ai une dignité inférieure à. C'est Simone Weil, la philosophe, donc avec un W, dans L'Enracinement, donc qui est un essai qu'elle publie au début du XXe siècle et qui, en fait, a un projet de rédaction, non pas d'une déclaration des droits de l'homme, mais d'une déclaration des devoirs envers l'être humain. Et dans ce projet, elle essaye d'établir la liste des besoins de l'âme. On a des devoirs dans la mesure où il y a des besoins. On a le devoir de les satisfaire. Donc il y a des besoins du corps, mais pour elle, il y a aussi des besoins de l'âme. Et justement, elle dit que l'égalité fait partie de ces besoins. Et non pas parce que simplement on a besoin d'avoir autant de richesses que les autres, mais vraiment parce qu'on a besoin d'être reconnu. L'égalité est un besoin vital de l'âme humaine. Elle consiste dans la reconnaissance publique, générale, effective, exprimée réellement par les institutions et les mœurs, que la même quantité de respect et d'égard est due à tout être humain, parce que le respect est dû à l'être humain comme tel et n'a pas de degré. Donc vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est la fin là, n'a pas de degré. Tout à l'heure, on disait, on peut parler d'égalité parce qu'il y a une quantification. Donc il y a une différenciation. Et parfois, donc, on peut dire que c'est plus ou moins, que c'est mieux ou moins bien, ou que c'est égal. Ici, en fait, l'égalité qu'on veut, c'est justement une égalité qui ne soit pas une égalité dans l'ordre de la quantité. En fait, tant qu'on reste dans le caractère quantitatif de l'égalité, on n'est pas satisfait du point de vue de ce besoin de l'âme dont parle Simone Weil. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne qu'on lui dise « tu vaux presque autant qu'un tel et donc on va te payer autant ». Ce qui compte, ce n'est pas d'être comparé à autrui, mais c'est d'être justement incomparable. Et l'égalité dont elle parle, quand elle dit que l'égalité est un besoin de l'âme, c'est d'être considérée non pas comme comparable à autrui, mais comme fondamentalement incomparable. Et elle dit que tant qu'on en reste à une évaluation quantitative, par exemple pour les métiers, hein, donc je reviens à la question de du fameux ascenseur social, tant qu'on en reste à une évaluation quantitative, on reste dans le scandale, ça reste toujours scandaleux. Et elle dit, le problème, c'est qu'on évalue les métiers uniquement elle le critique, hein, ce que disait Tocqueville, on évalue les métiers uniquement en fonction de l'argent ou du salaire qu'ils permettent. Donc du coup, le mineur va être considéré comme infiniment inférieur, je ne sais plus quel exemple elle prend. Le mineur est inférieur, on va dire, au chef d'entreprise, je ne sais plus quel est l'exemple qu'elle prend, justement parce qu'il y a une comparaison quantitative. Mais si on prend un autre exemple, le poète et le mathématicien, vous voyez, on voit bien que là, on n'est plus dans la comparaison quantitative. C'est-à-dire peut-être que le poète ne gagne pas très bien sa vie. Peut-être que le mathématicien non plus, d'ailleurs. Hein. Mais ce n'est pas deux métiers très bien rémunérés aujourd'hui. Mais peu importe. On voit bien qu'ici, la dignité du poète et la dignité du mathématicien ne sont pas comparables. Ce n'est pas l'un est plus ou mieux payé que l'autre. C'est que chacune est reconnue comme incommensurable. Et... elle dit « En faisant de l'argent le mobile unique de tous les actes, on a mis le poison de l'inégalité presque partout. » Autrement dit, l'égalité, c'est justement de ne pas être comparé les uns aux autres. l'égalité dont on a besoin, c'est d'être considéré comme unique. Et justement, comme chacun peut être considéré comme unique, alors il y a une véritable égalité. Il y a une véritable reconnaissance de la dignité. Elle dit, l'égalité, page 29, l'égalité est d'autant plus grande que les différentes conditions humaines sont regardées comme étant non plus ou moins l'un que l'autre, mais simplement autre. Donc être considéré comme l'égal de l'autre, c'est être considéré simplement comme autre, et non pas comme équivalent, ou comme plus, ou comme moins. Donc l'égalité, en tant que, au sens moral, hein, qui est développé par Simone Veil, c'est le caractère incommensurable, non mesurable, de chaque personne, incomparable. Et donc c'est une liberté fondamentale, en fait. Reconnaître cette égalité-là, c'est-à-dire cette dignité fondamentale, ce caractère incommensurable de chacun, dans le fond, c'est reconnaître sa liberté fondamentale. Je finirai sur son analyse de la liberté, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un autre besoin, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a d'autres, mais il y a un autre besoin qu'elle décrit de l'âme humaine, c'est la liberté. On a besoin d'égalité et on a besoin de liberté. Et elle va définir la liberté non pas comme la possibilité de tout choisir, comme des choix indéfinis, mais elle dit que la liberté doit, comme je le disais tout à l'heure, s'exercer effectivement. Et pour qu'elle puisse s'exercer effectivement, il faut que les choix soient limités. On fait souvent cette expérience, si on vous dit « tu peux tout choisir », on a un peu du mal à choisir. Par contre, si on dit « tu peux choisir entre telle et telle et telle chose », c'est un peu plus facile. Hein. Au restaurant, on vous dit « vous pouvez manger ce que vous voulez ». Oui, mais vous savez faire quoi ? C'est quoi votre spécialité ? On est dans un restaurant italien, français, chinois. Vous voyez, on a besoin quand même d'une limitation dans l'éventail des choix, sinon on est totalement paralysé. Donc elle définit la liberté non pas comme un éventail indéfini de choix, mais comme la capacité de choisir réellement à travers un éventail limité. Et la vie commune, la vie dans une société qui est un fait, inévitablement entraîne des règles qui inévitablement limitent l'éventail des choix et donc permettent l'exercice réel de la liberté. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, la présence d'autrui, qui est mon égal, au sens non pas où il est comparé avec moi à peu près équivalent, mais qui est mon égal au sens où il est incomparable avec moi, il est unique comme moi je le suis. Et bien, la présence d'autrui et la vie en commun n'est pas une restriction de la liberté, mais un appel à la liberté. Puisque c'est uniquement dans la mesure où l'éventail est réduit, que je vais être appelée à pouvoir exercer réellement ma liberté. Et je crois que ça s'éprouve dans l'expérience de la responsabilité, qui est aussi un besoin de l'âme humaine pour Simone Veil. C'est-à-dire que la présence de l'autre comme être libre, par exemple la présence d'un ami, ou la présence d'un enfant qu'on doit éduquer, et dont on sait qu'on l'éduque non pas seulement parce qu'on doit le dresser, ça, c'était la conférence précédente, mais on l'éduque parce qu'il est appelé à être libre, donc à être en droit, en tout cas pas dans les faits pour l'instant, mais en droit de notre égal, hein, en ce sens-là. Eh bien, la présence de l'autre libre à côté de moi, en fait, me rend responsable. C'est-à-dire, je ne peux pas faire n'importe quoi, parce que précisément, il y a un individu à côté de moi, une personne plutôt, qui est libre et qui est unique. Et donc, cette responsabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est un appel de ma liberté à justement exercer des choix d'une manière qui soit morale. Et donc la présence de la liberté de l'autre, là, est un appel à une liberté qui soit vraiment une liberté morale, une liberté en vue du bien de l'autre. Voilà, je vais enfin conclure, si je retrouve ma conclusion. J'ai posé à plusieurs reprises le problème politique de la reconnaissance. On voit aujourd'hui, dans nos sociétés démocratiques, apparaître de manière très vive ce problème. C'est-à-dire que beaucoup de minorités demandent une reconnaissance. Et il me semble qu'il y a un paradoxe dans cette demande de reconnaissance. C'est-à-dire que d'un côté, quand on demande de la reconnaissance, on demande l'égalité. D'accord ? Ce qui est insupportable, c'est la discrimination, c'est-à-dire la différence de traitement, c'est-à-dire à égale dignité, une différence de droit. Bon. Mais en même temps, dans la demande de reconnaissance, il y a une demande de reconnaissance de la différence. Et c'est là où, à mon avis, cette question de la reconnaissance est extrêmement épineuse. On demande en même temps l'égalité, mais ça ne suffit pas. on demande aussi la reconnaissance de notre différence, quand on demande cette fameuse reconnaissance. Hein, on peut penser à des minorités religieuses. À la fois, on veut une égalité de droit, d'accord, évidemment. Hein, ce ne serait pas un état de droit, celui qui dénie à certaines communautés religieuses, sous prétexte de leur religion, un certain nombre de droits. Mais on demande aussi des droits spécifiques liés à la différence. Et c'est là où on voit que la liberté peut être menacée par l'égalité dans la mesure où elle n'est pas satisfaite par une simple reconnaissance d'égalité juridique. Être reconnu comme vraiment libre, c'est être reconnu dans son droit d'être soi, comme on le disait au début. Alors, la question, je crois, qui se pose, c'est est-ce au droit d'assurer cette reconnaissance ? Le droit ne doit-il pas en rester à simplement une garantie des libertés formelles, une garantie minimale de l'état de droit, même si c'est insuffisant du point de vue de la demande de reconnaissance ? Parce que on le voit, il me semble que lorsque on s'occupe politiquement d'assurer une égalité réelle, le risque, c'est que pour en passer par là, il faut passer par la contrainte. Et c'est en cela que, je crois, l'exercice politique qui consisterait à égaliser réellement, à gommer les différences, serait contre-productif. Donc voilà, la question à laquelle on peut arriver, c'est est-ce au droit d'assurer la reconnaissance non seulement de l'égalité, mais de la différence, c'est-à-dire de la liberté d'être soi ? Ou est-ce que on ne doit pas plutôt penser cette reconnaissance sur le plan simplement moral, tel que j'essayais de l'indiquer avec Simone Veil. C'est-à-dire que c'est peut-être plutôt dans la relation interpersonnelle, dans la relation morale, que s'accomplit vraiment la reconnaissance de l'autre en tant que liberté. Merci beaucoup.